Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Sas.
Salut à tous et bienvenue dans Cinécure, épisode 6. Vous voulez voir un film, mais vous ne savez pas quoi? Vous passez des heures à scroller devant les vignettes qui ne vous disent rien? Vous constituez des listes sur des carnets que vous perdez et ne retrouvez plus quand vous en avez besoin? Vous ne savez plus comment vous y prendre pour sélectionner un film sans que cela tourne au pugilat? J'ai la solution. Cinécure, c'est le podcast qu'il vous faut. Je fouille dans les films que j'ai vus et je vous ressors les meilleurs, les plus intéressants, intrigants, excitants, amusants. Tous les mois, je vous en recommande 4 sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'il soit disponible en streaming ou en VOD. Ce mois-ci, je vous parle du vieil Hollywood, de pulsions un peu gênantes, d'histoires de famille et de romantisme musclé. Vous êtes prêts? C'est parti! Sunset Boulevard de Billy Wilder, durée 1h50. Un scénariste de série B tente d'échapper à ses créanciers et se retrouve par hasard sur la propriété de l'une des plus grandes stars du Hollywood muet. Celle-ci, au lieu de le chasser, l'invite à rester et à travailler sur le script qui, espère-t-elle, la remettra sur le devant de la scène. Petit à petit, une relation parfaitement toxique et vampirique s'installe entre les deux protagonistes.
I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Billy Wilder, c'est avant tout un scénariste puisqu'il a participé à l'élaboration de plus de 70 longs métrages et c'est quelqu'un qui se met à la réalisation vraiment sur le tard. Il a une première expérience en 1934 qui apparemment n'est pas très concluante puisqu'il n'y revient pas avant 1942, puis en 1943 un autre film et enfin surtout en 1944 il fait un film qui est très connu qui s'appelle Assurance sur la mort en français, Double Indemnity en anglais, et qui est un peu le film qui va poser toutes les bases du film noir, donc cette lumière si spécifique, la figure du détective privé, la figure de la femme fatale, tous ces codes qui vont être repris par la suite par certains films noirs et qui vont être parfois même détournés ou parodiés jusqu'à très récemment. Après Double Indemnity, il fait quelques films, notamment The Lost Weekend, qui va le permettre de rester un petit peu à l'affiche. Mais pour moi, c'est vraiment Sunset Boulevard, sorti en 1950, qui va le projeter dans une autre sphère, la sphère des grands réalisateurs, et surtout qui va le mettre en place pour la décennie des années 50, dont il va être un peu le champion, quoi. Alors ce film est particulier parce que c'est un commentaire sur l'industrie hollywoodienne, particulièrement sur la manière qu'a Hollywood de traiter ses stars vieillissantes. C'est encore plus renforcé par le fait que là il s'agit d'une star du muet et que le muet est terminé depuis déjà quelques années. Et on assiste un petit peu tristement à cette déchéance. En fait, on voit bien que c'est quelqu'un qui a été très très grand et puis qui aujourd'hui n'est plus du tout à la hauteur de ce qu'elle était. Il y a une sorte de décadence qui est assez fascinante. Une décadence qui est renforcée par le vrai coup de génie de Wilder pour ce film, mis à part sa grande réalisation et tout un tas de choix qui sont vraiment malins. Là où vraiment il est très fort, c'est dans son casting. D'abord parce qu'il choisit Gloria Swanson, qui est une véritable star du muet au moment où elle va tourner ça. C'est quelqu'un qui n'a plus tourné du tout et qui a été vraiment une énorme star dans le muet, mais qui n'est plus personne aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un premier coup de génie. Ensuite, il entoure Gloria Swanson de tout un tas de personnalités du cinéma et du grand Hollywood. Donc on retrouve Cecil B. DeMille, qui est quand même encore actif, mais qui a surtout été quelqu'un qui a commencé dans ces années-là. Et puis ensuite, on retrouve d'autres personnalités. On a Buster Keaton. Et dans le rôle de son majordome, on retrouve Heinrich von Stroheim, qui est un réalisateur allemand, mais qui a aussi travaillé un peu aux États-Unis, puis qui a joué dans plein de films, même des films français d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a une personnalité très particulière. C'est aussi le réalisateur qui a mis en avant Marlene Dietrich, qui a fait découvrir son travail. Moi, je vous conseille son interview à Heinrich von Stroheim dans le merveilleux bouquin que je vous conseille sans arrêt qui s'appelle « Les maîtres d'Hollywood » par Peter Bogdanovich. Alors, l'interview, elle est courtissime, hein, donc vraiment, vous n'allez pas perdre de temps en la lisant, mais ça vous montrera vraiment qui était le personnage. Et l'autre coup de maître de Billy Wilder, c'est d'aller choisir William Holden. Alors, c'est une histoire un petit peu particulière puisque à la base il ne voulait pas du tout William Holden. Il faut dire que William Holden au moment du tournage il a entre 31 et 32 ans et c'est pas du tout le mec que recherche Billy Wilder. Lui il voulait Montgomery Clift qui est un énorme acteur dont je vous parlerai certainement un jour ou l'autre. Le problème c'est que Montgomery Clift quelques semaines avant le tournage, il casse son contrat et Billy Wilder se retrouve sans personne. Donc un petit peu par défaut, et après avoir fait quelques choix qui ne fonctionnaient pas, il finit par choisir William Holden. Puis finalement, ils travaillent ensemble, ils préparent le rôle, ça se passe bien. Et en fait, Holden va complètement relancer sa carrière avec ce rôle, dans lequel il est fantastique. Et puis c'est aussi le début d'une grande amitié entre les deux hommes, qui collaboreront par la suite sur Stalag 17, Sabrina et même Fedora. C'est un film qui vaut le coup d'être vu, ne serait-ce que pour sa scène mythique de l'escalier. Je vous en dis pas plus, regardez-la, elle est incroyable cette scène. Et je ne peux pas vous laisser sans vous parler du travail de John Seitz, le directeur photo avec lequel Wilder avait collaboré sur Five Graves to Cairo en 1943, puis Double Indemnity donc en 1944, donc c'est-à-dire le directeur photo qui va créer cette ambiance que l'on retrouve dans tous les films noirs avec cette lumière contrastée, souvent du noir et blanc avec des stores vénitiens. Tout ça, c'est John Seitz. Et puis ensuite, en 1945, ils travaillent ensemble sur The Lost Weekend et enfin donc sur Sunset Boulevard. Sunset Boulevard qui est un film qui est photographié, à mon humble avis, merveilleusement et qui regorge de petites trouvailles visuelles dont Wilder avait le secret. C'est un régal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un régal, mais malheureusement, c'est un régal qui apparemment ne suffit pas, puisque dans une sorte de retournement de situation un petit peu ironique, c'est un film dont un remake est en train d'être produit. Et vraiment, ça fait rigoler quand on voit que Sunset Boulevard est un commentaire sur la société de Hollywood. Alors c'est un commentaire sur les acteurs et sur les acteurs vieillissants, mais on pourrait aussi se demander si c'est pas un commentaire indirectement, ironiquement, sur ce besoin qu'a Hollywood de faire des remakes tout le temps. Franchement, quand on voit Sunset Boulevard, celui qui est sorti en 1950, on se demande vraiment l'intérêt de faire un remake, d'autant plus que ce remake était déjà réclamé à Billy Wilder quand il était vieillissant. Il racontait lui-même qu'il recevait souvent des coups de fil à son bureau et qu'on lui parlait de racheter les droits pour faire un remake, et quand c'était comme ça, il faisait semblant que c'était pas lui, il raccrochait en disant « non, vous êtes trompé de numéro », pour vous dire à quel point ça ne l'intéressait absolument pas qu'un remake soit fait, et on le comprend, c'est complètement illogique. Le film est disponible en VOD sur Canal+, pour le prix ridicule de 2 ou 3 euros. En 1950 sortait « Autant en emporte le vent » de Victor Fleming, « Justice est faite » d'André Kayat, « Rashomon » d'Akira Kurosawa et Jean-Paul Belmondo n'était pas encore apparu au cinéma. Le Voyeur de Michael Powell durait 1h41. Mark Lewis, un jeune homme réservé et un peu fuyant, a plusieurs métiers. Principalement cadreur pour un studio londonien, il est aussi photographe coquin pour arrondir ses fins de mois. Et la nuit, il chasse des jeunes femmes pour les filmer alors qu'il les tue et espère voir ainsi l'expression de la peur sur leur visage. Alors qu'une enquête est ouverte pour découvrir qui est derrière ces meurtres, Mark rencontre sa voisine Hélène, une jeune femme spontanée, et les deux tombent amoureux. Mark essaye alors de combiner sa vie professionnelle et son amour naissant qu'il souhaite ne pas salir avec ses pulsions meurtrières.
Imagine. Someone coming towards you who wants to kill you, regardless of consequences.
A madman?
Yes, but he knows it, and you don't. And just to kill you isn't enough for him.
Michael Powell, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 1 de Cinécure, celui où je vous conseillais Les Chaussons Rouges, de donc Michael Powell et Emmerich Pressburger, c'est-à-dire la personne avec laquelle il a formé un duo pendant des années, probablement le plus grand duo du cinéma britannique, un duo qui nous a donné des très très grands films. Bon, mais là, pour Peeping Tom, donc le titre original, Le Voyeur en français, il est seul. Et il est très seul, et il sera encore plus seul après la sortie, puisque c'est un film dont il ne se remettra jamais, tellement il a été mal reçu, et par la critique, et par le public. Alors, par le public, parce qu'il est profondément malaisant, c'est un film qui a plusieurs lectures. L'une de ces lectures à laquelle moi j'adhère personnellement, c'est une lecture profondément sexuelle, c'est-à-dire qu'il est clairement question de rapports sexuels et de notre sexualité. Donc ça, en 1960, bah, ça pardonne pas. C'est un film aussi qui est un petit peu en trois bandes, puisque donc on retrouve cette lecture sexuelle, mais on y retrouve aussi le rapport que les réalisateurs ont au cinéma, donc la façon qu'ils ont de capturer des images, particulièrement leur rapport à leurs actrices. Michael Powell, c'est quelqu'un qui a été marié avec et amoureux de pas mal d'actrices qu'il a dirigées, donc c'est quelqu'un qui déjà a cette espèce d'ambiguïté, pas toujours très nette d'ailleurs. Et il y a aussi ce rapport que l'on peut avoir, nous, spectateurs au cinéma, donc cette façon que l'on a d'aller s'enfermer dans des salles obscures et regarder des gens vivre des choses parfois dramatiques, parfois excitantes, sur grand écran, tout en ayant absolument, de notre côté en tout cas, aucune prise de risque, aucune participation directe à ces événements-là. Donc il y a quelque chose de profondément, quand on y réfléchit, pas forcément malaisant, mais un peu malsain. Alors autant vous dire qu'en 1960, ce côté malsain, bah, ça pardonne pas. Le film, quand il sort en Grande-Bretagne, il est retiré des salles 5 jours plus tard. Donc vraiment, bah, c'est pas assez hein, pour que ça puisse être vu. Et puis surtout, c'est un film qui ensuite va être coupé, recoupé, découpé, remonté. Le film qu'a pensé Michael Powell, on ne le verra jamais en fait, parce qu'il y a des extraits qui sont complètement perdus à jamais, quoi. Pourtant, quand il est sorti, c'était considéré comme un petit peu le pendant britannique de Psycho. Ce qui est rigolo, puisque Hitchcock est aussi britannique, mais bon, les films de Hitchcock, à cette époque-là, ils étaient produits aux États-Unis, on était déjà sur une autre planète. Dans ce film, il y a une scène absolument incroyable que je ne me lasse pas de revoir régulièrement, qui est la scène où Mark rencontre la maman de Hélène. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais la maman d'Hélène est aveugle, et donc Mark, lui, est obsédé par l'image, et il va y avoir cette espèce de rapport entre eux dans ce moment d'échange, cette scène qui est relativement courte, qui est à la fois profondément dérangeant et en même temps doux, rassurant, et en même temps profondément sexuel. C'est très bizarre, et c'est difficile à définir pour qui n'a pas vu le film, mais vraiment, il y a quelque chose de dérangeant, d'inexplicable, quelque chose qui touche presque au sublime dans un sens, et qui est quelque chose que je n'ai quasiment jamais revécu dans aucun film que j'ai vu. Voilà, je voudrais quand même en profiter pour remercier mes amis qui m'ont conseillé ce film, ils se reconnaîtront, et vraiment, bah, j'espère que vous le découvrirez et que vous l'aimerez autant que moi. C'est un film très spécial, très particulier, dans une année de cinéma, 1960, qui elle aussi est très spéciale et très particulière, puisqu'elle venait ouvrir une décennie de gros mouvements, de gros changements, et que cette même année 60 sont sortis énormément de films importants, comme par exemple La Dolce Vita de Federico Fellini, Ben-Hur de William Wyler en France, parce qu'en réalité il est sorti en 59 aux États-Unis, La Vérité de Henri-Georges Clouzot, dont on reparlera peut-être bientôt, et Classe sous risque de Claude Sauté avec Jean-Paul Belmondo. Le Voyeur est disponible sur Shadow et sur Plex TV. Plex TV, c'est une plateforme dont je vous reparlerai très bientôt, un petit peu particulière, mais gratuite et sans engagement, à condition d'être prêt à vivre un petit peu de publicité pendant la projection, ce qui peut être ennuyeux. C'est pour ça que je vous conseille quand même plutôt d'aller le voir sur Shadow. L'été meurtrier de Jean Becker durait 2h13. Quand Eliane, une jeune femme sensuelle et volage, débarque au village, elle fait tourner les têtes de tous les habitants. Pimpon, pompier volontaire et mécanicien, ne fait pas exception et Eliane semble intéressée elle aussi par cet Italien d'origine et par sa famille et son histoire. Quelque chose semble la lier au piano mécanique qui est entreposé dans la grange familiale.
On dirait un poisson rouge quand vous me regardez comme ça.
Ils sont noirs naturels, vos cheveux?
Tu parles, Charles, ça me coûte 150 francs par mois et ça me donne des croûtes sur la tête.
Je connais un chouette restaurant sur la route de Cavaillon. Qu'est-ce que vous diriez si on y allait tous les deux un soir? C'est superbe, hein? Il y a une piscine, des bougies sur les tables, des couverts en argent.
D'accord, tonton, d'accord, t'emballe pas. C'est pas parce que vous m'emmènerez au restaurant que vous coucherez avec moi. Vous êtes prévenu.
Jean Becker, ça fait partie de ces réalisateurs que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît. C'est-à-dire que tout le monde a vu ses films, tout le monde sait qui c'est, mais personne n'est capable de dire « Ah bah oui, c'est Jean Becker ». Je veux dire, auprès du grand public, je suis pas persuadé que son nom soit si connu que ça. Et je sais que pour moi, c'était pas le cas en tout cas. Pourtant, on lui doit des films très importants, commençant par Elisa, ou Les Enfants du Marais, Un Crime au Paradis, Dialogue avec mon jardinier, Effroyable Jardin, La Tête en Friche, Deux Jours à Tuer, et donc bien sûr, L'Été Meurtrier. Jean Becker, c'est un enfant de la balle, puisque c'est le fils de Jacques Becker, qui lui aussi était réalisateur et aussi scénariste. Il a notamment réalisé Casque d'or, et Le Trou. Alors vous savez que je suis fan de Croustifé ou de Fun Fact, et à propos du Trou, j'en ai un qui est plutôt cocasse. Belmondo a joué dans un... Vous allez voir, tout est lié. Belmondo a joué dans un court-métrage qui s'appelle Charlotte et son Jules, qui a été réalisé par Jean-Luc Godard. Dans ce court-métrage, il n'a pas eu le temps de faire la post-synchronisation, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps, après le tournage, d'aller en studio pour enregistrer sa voix quand il parle dans le film. À l'époque, on ne prenait pas forcément le son directement sur le tournage, et donc il fallait enregistrer après en studio. Il n'a pas eu le temps, il était embauché quelque part ailleurs. Et quand Jacques Becker a cherché son cast pour Le Trou, il a pensé à Jean-Paul Belmondo, mais quand il a vu Charlotte et son Jules, donc le court-métrage de Jean-Luc Godard, il a dit « Ah non, j'aime pas la voix de Jean-Paul Belmondo, donc ça va pas le faire. » Et en fait, le petit côté comique de toute cette histoire, c'est que comme Belmondo n'avait pas eu le temps d'enregistrer, c'est Jean-Luc Godard lui-même qui a fait la voix de Belmondo. Ce qui veut dire qu'une des premières apparitions de Belmondo à l'écran, dans un court-métrage bien sûr, mais quand même une de ses premières apparitions, et ben c'est avec la voix de Godard et avec cet accent tellement particulier qu'avec Godard, ou qu'a toujours Godard d'ailleurs, parce qu'il est toujours vivant. Du coup, ben Belmondo est passé à côté du trou, ce qui est un petit peu dommage. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Et ben parce que quand Jacques Becker décède, donc le père, Jean Becker, lui, passe à la réalisation. Et son premier film, c'est Un nommé La Rocca. Et qui est-ce qui prend dans le rôle principal? Jean-Paul Belmondo. Ensuite, il va faire Tendre Voyou, qui va sortir en 66, toujours avec Jean-Paul Belmondo. Puis ensuite, il va prendre une grande pause. Il en a marre, ça n'intéresse pas. Une pause qui va durer 20 ans, pendant laquelle il va faire quelques réalisations de publicité, de choses comme ça, mais rien de très important, on va dire. Et donc, L'été meurtrier, c'est son grand retour. C'est le film qui marque son retour. Pour ce film, il s'associe avec Japrizo. Ils cherchent un sujet de film, ils écrivent plusieurs traitements, ils n'arrivent pas vraiment à trouver quelque chose qui les convainc vraiment. Puis, Japrizo sort un bouquin, qui s'appelle donc L'été meurtrier. Il l'envoie à Becker et il lui dit « Regarde, ça y est, t'as ton sujet. » Alors Becker lit le bouquin, ça lui plaît, et il décide de l'adapter avec Japrizo. Pour le rôle d'Eliane, autant Becker que Japrizo avaient en tête Isabelle Adjani. Il lui en parle, elle refuse, ils insistent, elle insiste qu'elle veut pas. Devant son refus, il commence à chercher d'autres actrices. Il est question de Lio, puis de Jeanne Masse. Finalement, c'est Valérie Caprischi qui est choisie. Elle apprend le rôle, elle le répète. Puis finalement, Isabelle Adjani, qui a entre-temps lu le roman de Japrizo, revient sur sa décision et obtient le rôle principal. Et c'est tant mieux, parce qu'elle a gagné le César, c'est un des Césars qu'elle a gagné, pour ce rôle. Franchement, dedans, elle est incroyable, elle est incandescente et elle porte le film sur ses épaules puisque tout est une question de perspective dans ce film, notamment de la perspective d'Eliane puisque c'est elle qui arrive dans le village et c'est elle qui a un mystère à dévoiler, donc c'est elle qu'on suit la plupart du temps. Même si le film va se permettre des petites incartades à droite à gauche, en définitive, c'est bien son histoire dont il s'agit et c'est bien donc son point de vue qui est exposé. Donc on vit toute la trame narrative à ses côtés. Et pour ça, il faut quand même avoir les épaules pour porter le film de bout en bout, ce qu'elle fait sans aucun problème. Et en plus de ça, elle est censée représenter un personnage qui insuffle une tension sexuelle tout au long du film. Bon, Adjani en 1983, c'est clair qu'elle n'a aucun problème pour y parvenir. Ça devait quand même être très difficile, j'imagine, parce qu'elle elle a ce rôle dans lequel l'enferme les villageois dans le film, qui est en fait un objet sexuel. Et malgré tout, elle arrive à donner quelque chose de plus. Elle arrive à avoir une présence qui est magnétique. C'est assez incroyable. Pour lui donner la réplique, on retrouve Alain Souchon, qui est Alain Souchon. Moi, je pense que ça aurait mérité d'être quelqu'un d'autre, mais je sais que Gérard Depardieu avait refusé le film. Il l'avait proposé à Patrick Devers. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce que ça aurait été avec Devers face à Adjani. Ça aurait probablement été quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, il s'est suicidé avant de donner sa réponse. Donc le rôle a été à Souchon. C'est par ailleurs un des tout premiers films de François Cluzet, qui est excellent dedans. Et on retrouve Suzanne Flon, qui gagnera elle aussi le César, mais cette fois-ci dans un second rôle. César amplement mérité pour une actrice qui est généralement assez méconnue, voire sous-cotée. Aux côtés de ces deux récompenses féminines, Sébastien Japrizo gagnera le César de la meilleure adaptation et le film gagnera aussi le César du meilleur montage pour Jacques Huita. Le film est disponible en streaming sur Filmo TV et en 1983 sont aussi sortis Gandhi de Richard Attenborough, Les dieux sont tombés sur la tête de Jamie Huss, Les compères de Francis Weber et Le marginal de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo. Time and Tide de Treehark, durée 1h53. Un barman s'entiche d'une lesbienne et la met enceinte accidentellement lors d'une soirée très arrosée. Dans un effort pour se responsabiliser, il décide d'intégrer la société de protection illégale de son oncle et rencontre alors un ancien mercenaire qui souhaite raccrocher. Alors que les deux hommes deviennent amis, le futur de l'un s'entrechoque avec le passé de l'autre.
Lo siento, me olvidé.
Detonando el blanco.
Welcome, Cockroach City.
Saludos a nuestro querido comandante.
Time and Tide, c'est un film, d'abord c'est un film fou, complètement dingue, dans lequel il faut vraiment se plonger sans réfléchir, se laisser transporter par les émotions, par les sensations, parce que sinon ça peut être une expérience assez frustrante. Moi j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, sa forme est très particulière, le jeu des acteurs est spécial aussi, l'histoire est complètement folle, même parfois on a la sensation que c'est un non-sens. Et puis en fait, une fois qu'on se laisse porter par la vague, on est complètement happé par l'histoire, on est complètement happé par les images, par ce qui se déroule, qui a l'air fou. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est un film fou. C'est un film d'action, donc ça il faut le savoir aussi. Si vous n'êtes pas branché film d'action, c'est même pas la peine de mettre le film, vous allez vous ennuyer. Mais c'est aussi, et je pensais vraiment jamais dire ça un jour, c'est aussi un film extrêmement poétique. Donc c'est très bizarre, on se retrouve dans une espèce d'ambiance où en fait on mélange, pour donner une référence qui soit concitoyenne de Tsuyark, je dirais John Woo, donc ce cinéma un peu dans l'excès, très jouissif, extrêmement dans la surenchère, avec Wong Kar-wai, pourquoi pas, qui est aussi concitoyen de Tsuyark, donc aussi hongkongais, et son traitement du temps, de l'image, sa photographie si particulière, qu'on retrouve dans un sens dans ce film. Donc on est ballotté entre de l'action pure, même parfois de l'action extrême, et aussi un traitement du temps, des personnages extrêmement poétiques, extrêmement romantiques même parfois, alors qu'a priori l'histoire ne s'y prête absolument pas. Donc bien évidemment, quand on voit une espèce d'ovni comme ça, ben on a envie d'en savoir plus. Donc j'ai fait des petites recherches sur Tsuyark. Je suis une fois de plus vraiment pas un professionnel, mais ça m'a vraiment donné envie d'en découvrir plus. C'est un réalisateur qui, je pense, ne se sentait pas vraiment en phase avec le système de production dans lequel il s'est retrouvé. Donc d'abord, c'est quelqu'un qui a été étudié aux États-Unis le cinéma dans les années 70 au Texas. Donc quelqu'un qui part de Hong Kong pour aller s'installer aux États-Unis, qui plus est au Texas. C'est surprenant, on peut quand même dire ça. Sur place, il découvre forcément le cinéma américain qui l'influence, et ça se voit d'ailleurs dans Time and Tide, que certains plans, certaines choses, on retrouve des codes visuels qui sont pas purement hongkongais. Mais là où le cinéma hongkongais est toujours très fort, c'est pour aller chercher des choses à l'extérieur, les adapter, et puis en faire quelque chose de nouveau, de complètement différent, quoi. C'était le cas déjà avec John Woo et son rapport avec Melville. Là, Tsuyark, clairement, il va chercher quelque chose au cœur du cinéma américain. Et en rentrant à Hong Kong, il commence par réaliser pour des séries télé, et en fait après, en réaction au système qui est en place à Hong Kong, il s'inclut dans le mouvement de la nouvelle vague hongkongaise qui a lieu de 79 à 84 avec tout un tas d'autres réalisateurs, dont John Woo et Wong Kar-wai notamment. Et il va réaliser 3 films, donc Butterfly Murders, ensuite il va réaliser Histoire de Cannibale et L'Enfer des Armes, donc entre 79 et 80, et ces films vont être considérés comme extrêmement agressifs, vont pas du tout être acceptés ni par la critique ni par le public, et il est contraint d'entrer à Cinema City en 81, qui est donc le système classique de production des films. Et c'est quelqu'un qui va toujours avoir l'envie de repousser un peu les limites, à l'image du mouvement de la nouvelle vague hongkongaise et de la nouvelle vague même française, parce que c'était ça au début, hein, l'idée. C'était de dynamiter un peu les modes de production, les modes de réalisation, changer un peu tout et recommencer, laisser place aux jeunes. Et en fait, il va lui aussi osciller, comme nous on oscille dans son film entre romantisme et action. Lui, il va osciller entre indépendance farouche et système extrêmement industriel, commercial. Et en fait, il va finir par quand même vraiment marquer le cinéma chinois, hongkongais. Il va le faire comme réalisateur, puisqu'il va réaliser plusieurs films qui vont changer. Je ne vais pas vous faire une masterclass sur Tsuyark, allez faire des recherches sur lui, c'est très intéressant. Mais il va aussi changer en tant que producteur, parce que c'est quelqu'un qui va produire des films de John Woo, comme Le Syndicat du Crime, Le Syndicat du Crime 2, qui sont des films qui sont très importants pour le polar hongkongais. Il va changer aussi par sa manière de chorégraphier les bagarres, les fusillades, et il va amener le cinéma hongkongais à évoluer, il va l'aider à s'exporter un peu plus. Et c'est comme si tout ça, en fait, tout ce qu'il avait appris pendant toutes ces années, puisque Time and Tide est sorti en 2000, donc c'est pas un film très vieux, là, dans ce film-là, dans Time and Tide, c'est comme si tout ce qu'il avait appris pendant toutes ces années, en tant que producteur, en tant que réalisateur, au contact du cinéma tel qu'il l'a pratiqué et tel qu'il l'a connu, tout se rejoint, en fait. Et là, on a un film qui est une sorte de film somme, et qui est un film, je le répète, complètement dingue. Voilà, je peux vraiment pas vous en dire plus, c'est très compliqué. Si je rentrais dans l'histoire un peu plus que ce que je l'ai fait dans le résumé, ça n'aurait pas de sens. Et c'est, comme je vous l'ai dit, presque une expérience sensorielle. Mais c'est une expérience sensorielle dans laquelle vous allez être ballotté entre à la fois une espèce de poésie visuelle et en même temps, un film d'action. C'est presque comme Tigre et Dragon, sauf qu'il n'y a pas le côté traditionnel. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus actuel. Voilà, je peux pas vraiment le résumer mieux que ça. Je vous conseille fortement important de le voir si vous aimez les films d'action, bien entendu. Si vous n'aimez pas les films d'action, ouais, je vous cache pas que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. En tout cas, le film est disponible à la location sur Apple TV pour 3,99€. Et la même année 2000 sont sortis Taxi 2 de Gérard Krawczyk, Tigre et Dragon justement d'Ang Lee, Le Sixième Sens de M. Night Shyamalan et Amazon de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Cinécure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à venir mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. Cinécure est produit par Adrien Larousset chez Vaisseau Hypersensas et je les remercie tous de la confiance qu'ils m'accordent. Enfin, vous l'avez vu, j'ai disséminé un peu de Jean-Paul Belmondo partout dans cet épisode. Il y a un mois, déjà, cet immense acteur nous quittait et je me doute bien qu'en un mois, vous avez dû entendre un peu tout et n'importe quoi sur lui et qu'une certaine lassitude a dû s'installer autour de ce décès. Mais quand même, je pense que c'est important de se souvenir qui a été Bebel, ce qu'il a apporté au cinéma, et particulièrement au cinéma français. Et ça tombe bien, puisqu'il y a quelques mois de ça, Netflix a eu l'excellente idée d'accueillir dans son catalogue certains de ses plus grands films, Cartouche, Léon Morin Prêtre, Le Magnifique, Le Marginal, L'As des As, Peur sur la ville, Les Morphalous, Un homme qui me plaît. Il y a l'embarras du choix pour découvrir ou redécouvrir cette personnalité à part du cinéma français. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine sur mon compte Instagram, @charledy, pour une sélection de films faisant écho à ceux dont j'ai parlé aujourd'hui, puis dans un mois pour un nouvel épisode de Cinécure. Et enfin, j'ai hâte de partager avec vous dans 2 semaines le premier épisode de Ciné Essentiel qui sera dédié à la carrière d'Henri-Georges Clouzot. D'ici là, prenez bien soin de vous et regardez plein de films. Ciao !